Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et oui, le moment est venu de retrouver Franck Ferrand et d'aller faire un tour en sa compagnie au cœur de l'histoire. Alors aujourd'hui, histoire mouvementée d'un homme guillotiné à 34 ans, Georges-Jacques Danton. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Gorgone, gargouille, cyclope, chef tartare, tels furent quelques-uns des surnoms que de son vivant on avait donné à cet homme. Cet homme au physique de taureau, étoile filante de l'histoire, mais à l'instar de Mirabeau et de Robespierre, figure majeure de la Révolution française. Alors aujourd'hui, c'est un journaliste britannique qui nous livre, avec tout le recul nécessaire, un portrait plein de relief de ce personnage controversé. Je suis heureux d'accueillir David Laudet, ainsi que mon ami Philippe Séguy, pour qui cette époque révolutionnaire n'a pas de secret, aucun secret.
Alors, si vous nous écoutez en direct, je vous rappelle que vous pouvez transmettre des questions, des remarques à Franck, à ses invités, en vous rendant sur le site internet d'Europe 1, je rappelle, www.europe1.fr.
Et oui, vous avez raison, Julia, en ce début d'année, il n'est pas mauvais de revenir sur l'essentiel. Alors, citoyenne Julia, la Révolution nous appelle, elle n'attend pas.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Certains personnages de l'histoire, ils sont très peu nombreux, possèdent une double réputation, construite au fil des générations par des historiens qui ont écrit sur eux à charge et à décharge. Assurément, Danton fait partie de ce petit groupe. Il n'y a en effet pas un Danton, mais deux au moins. Aux yeux des uns, le Danton audacieux, patriote, généreux, admiré comme un révolutionnaire chaleureux et humain par opposition à la supposée froideur inhumaine d'un Robespierre. Aux yeux des autres, le Danton jouisseur, avide et corrompu, dénoncé comme un opportuniste impétueux par opposition avec la modération, avec le prétendu désintéressement d'un Mirabeau. Cette dualité des points de vue a marqué toute l'historiographie, je veux dire l'ensemble des écrits qui lui ont été consacrés depuis sa mort, et disons-le, dès sa mort. Par exemple, l'ambassadeur des États-Unis, gouverneur Morris, écrit à chaud dès le 10 avril 1994, « Il était trop voluptueux pour son ambition et trop indolent pour acquérir le pouvoir suprême. » Et Chateaubriand ira plus loin en disant « Il ne s'était affublé du manteau révolutionnaire que pour arriver à la fortune. » Mais Napoléon, au contraire, parlait d'un homme bien extraordinaire. Et plus tard, sous le Second Empire, on verra un lointain neveu du révolutionnaire, l'inspecteur général Arsène Danton, prendre la tête de toute une bande d'historiens, dont Alphonse Allard, évidemment, des historiens défenseurs de l'homme, de l'audace, auxquels on va se mettre à dresser des statues. Vous savez qu'il y en a une, évidemment, à l'Odéon, à Paris, mais il y en a un peu partout de ces statues, y compris à Arcis-sur-Aube, chez lui, bien entendu. Dans les années 1920, l'ali est donné par le grand historien Albert Mathiez, qui s'acharne contre celui qu'il regarde, je cite, comme « un démagogue affamé de jouissance qui s'était vendu à tous ceux qui avaient bien voulu l'acheter, un mauvais Français qui doutait de la victoire et qui préparait dans l'ombre une paix honteuse avec l'ennemi ». Il n'y va pas de main morte, Mathiez. Il n'empêche, le portrait hagiographique brossé par Allard aura la vie dure, quelles qu'aient pu être les biographies plus mesurées, plus balancées parues depuis la dernière guerre. Vous savez qu'en 1983, c'est encore une image très flatteuse que va fixer le réalisateur polonais Andrzej Wajda dans son célèbre Danton, avec un Gérard Depardieu magnifique dans le rôle-titre. Alors Danton doit-il faire figure de modèle ou de repoussoir, à moins que la vérité englobe les deux, comme aurait tendance à le montrer David Laudet avec un réalisme mordant « very British ». Sa biographie est plutôt favorable mais néanmoins lucide et elle me paraît offrir une synthèse des deux Dantons. Attention, je dis synthèse mais une synthèse savoureuse, haute en couleur, pas tiède, loin de là. Nous allons revenir ensemble sur cette carrière fulgurante, interrompue par le couperet de la guillotine, et sur les différentes étapes d'une vie courte mais intense. Auparavant, avec Philippe Séguy, j'aimerais resituer Danton dans son siècle, le replacer dans ce contexte tellement extraordinaire au regard de l'histoire que sont les années qui précèdent la Révolution, qui annoncent la Révolution, qui paraissent l'attendre.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et pour parler de Danton, nous vous retrouvons Franck avec votre premier invité, Philippe Séguy, qui est docteur en histoire, journaliste et grand reporter à Point de Vue.
Bonjour Philippe Séguy.
Bonjour Franck Ferrand.
Nous nous sommes déjà vus, mais enfin on va faire comme si nous n'avions pas parlé de Danton depuis un petit moment déjà. Mm-hmm. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dans la vie de ce personnage, qui est une vie fulgurante, pleine d'une impétuosité assez débordante, j'aimerais qu'on vienne sur la Révolution elle-même. Ça faisait déjà longtemps que tout ça couvait. Ça faisait quoi, 10 bonnes années déjà qu'on savait qu'on y allait vers quelque chose. On ne savait pas quoi exactement, mais
10 bonnes années en effet, dans la mesure où la Révolution française ne va pas naître, on l'a bien compris, le jour du 14 juillet. La Révolution française, ce sont des courants de pensée, des courants politiques qui rassemblent différentes sensibilités, différentes personnes, différents êtres qui aspirent, sans savoir d'ailleurs forcément toujours précisément à quoi, un changement, une autre société, un autre type de vivre.
Ce qu'il faut dire, c'est que 2 ans avant la réunion des États généraux, on est donc au milieu de l'année 1787, Danton, qui jusque-là était un petit avocat, il avait été avocat du barreau de Reims, va devenir avocat au Conseil d'État du roi, c'est-à-dire qu'en fait, il fait partie, qu'on le veuille ou non, des institutions monarchiques.
Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il s'inscrit d'ailleurs quand il reviendra à Paris, sous le nom de Danton, D'A-N-T-O-N, et n'oublions jamais, et son collègue Robespierre est dans le même cas en tant qu'avocat, que ce sont des gens qui n'envisagent absolument pas, non seulement une révolution, mais bien évidemment de se défaire du pouvoir royal. Je me permets simplement un tout petit mot sur Robespierre, qui ne nous éloigne pas tant que cela d'ailleurs de son rival et d'abord ami de Danton, qui va écrire une lettre adressée à la cour, adressée à Louis XVI, pour défendre les mérites du paratonnerre, qui, je le cite, serait idéal sur une tête si auguste. On en est là dans les années qui précèdent justement le 14 juillet et avant ce monumental dérapage.
Alors, à quoi ressemble la France du milieu des années 1780? Il ne faut peut-être pas oublier de dire que c'est un pays très peuplé, pays rural, très riche.
Vous avez raison de le préciser, la France est le pays le plus, j'en bafoue d'émotion, le plus peuplé d'Europe, c'est-à-dire 22 à 24 millions de sujets de Sa Majesté très catholique le roi de France, et qui sont généralement divisés, je dirais, en 3 ordres, les fameux 3 ordres, tiers état, ce qui c'est-à-dire 98% de la population française, les paysans, les petits bourgeois, la noblesse, l'armée compte 400 000 officiers, tous nobles, le clergé, environ 2 à 3% de la population française. Alors, et 138 évêques, pardonnez-moi, 138 évêques qui tous sont nobles, comme les 400 000 officiers.
On ne va pas refaire toute l'histoire politique du XVIIIe siècle, bien sûr, mais enfin, il ne faut pas oublier que depuis longtemps, le pouvoir royal s'oppose au Parlement, les parlements étant les cours de justice des différents États qui constituent le royaume, et ces parlements sont paradoxalement assez réactionnaires. C'est-à-dire qu'il y a eu longtemps une alliance du roi et de la bourgeoisie contre la noblesse, disons-le. Absolument. Et puis, Louis XV, dans les toutes dernières années de son règne, en 1770, donne un coup d'arrêt aux prétentions aristocratiques, et l'on verra son petit-fils 4 ans plus tard, à la mort de Louis XV en 1774, on voit Louis XVI en quelque sorte redonner le pouvoir à la noblesse. C'est ce qu'on appelle la réaction nobiliaire. Il faut bien avoir ça à l'esprit,
toujours,
je pense, pour comprendre
toujours,
ce qui va se
passer. N'oublions jamais le tragique mot, les tragiques paroles de Louis XVI à la mort de son grand-père Louis XV. Il s'adresse à sa jeune épouse Marie-Antoinette et il a ce mot terrible « Nous régnons trop jeunes ». Il est évident que si le roi Louis XV n'était pas mort de la petite vérole aussi, j'allais dire, vite, s'il avait simplement régné encore quelques années, bien des choses eussent été certainement évitées. Vous parliez justement de l'égoïsme, je crois que le mot n'est pas trop fort, de ces classes parlementaires. On le verra très nettement au moment de l'Assemblée des Notables en 88. On veut bien faire des économies. On sait combien le royaume est en difficulté. Et on sait d'ailleurs pourquoi. C'est la guerre d'Amérique. C'est la générosité de Louis XVI pour venir, n'en déplaise à notre ami David, au secours de l'Amérique et de sa libération.
Des colonies
anglaises. Les caisses sont vides. Donc, ces classes veulent bien faire, les classes possédantes, des économies. Mais ce n'est pas eux qui doivent le faire, c'est le peuple, c'est la petite bourgeoisie. On ne doit pas toucher en quelque sorte à ces privilèges.
Et en même temps, il y a de grands aristocrates qui ont de hautes idées politiques, qui vont mener la toute première révolution. Parce qu'on dit la Révolution française, on se rappelle la célèbre formule de Clémenceau, la Révolution est un bloc. Moi, je n'adhère pas du tout à cette
vision.
Moi non plus. Je pense que la Révolution n'est pas du tout un bloc.
Bien
il y a plutôt des révolutions. Et on va les voir se succéder. Et Danton, puisque c'est lui qui va nous servir de guide en quelque sorte, adhérer plus ou moins aux unes et aux autres.
La première des révolutions étant évidemment une révolution aristocratique qui fédère en quelque sorte plusieurs grands seigneurs, on peut parler de Malherbe par exemple, autour de la personnalité si controversée et si énigmatique, si enténébré parfois, du duc d'Orléans, qui réunit en quelque sorte qui est le cousin du roi, qui bientôt votera d'ailleurs la mort de son cousin, et qui réunit dans son palais royal plusieurs beaux esprits, plusieurs intellectuels qui rêvent en quelque sorte, et là on rejoint encore notre ami David, d'une monarchie constitutionnelle, d'une monarchie britannique où les grands du royaume, on n'est pas si loin de la nostalgie de la Fronde, auraient en quelque sorte la prépondérance politique et le premier rôle à jouer.
Ce que veulent ces très grands aristocrates, ce que veut ce prince, en l'occurrence le duc d'Orléans, c'est récupérer du pouvoir au détriment du pouvoir central du roi. Et dans un premier temps, leur ouverture d'esprit va dans ce sens. Alors néanmoins, dès le 4 août 89, on abolit les privilèges, on fait bientôt, en octobre, on publie et on ratifie la Déclaration des droits de l'homme, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à sa grande sœur américaine. Il y a donc des avancées incontestables des lumières et de ce qu'on pourrait appeler avec un anachronisme la démocratie quelque part.
À partir des années, je dirais en 1791, au moment de la fête de la fédération qui va réunir
14 juillet 90,
pardonnez-moi, un an avant, qui va justement réunir le peuple de France autour de sa souveraine et de son roi. Nous avons par exemple le cher Talleyrand qui va donner la messe avec le fameux « Ne me faites pas rire », n'est-ce pas, ce qui en dit long sur la foi de l'évêque d'Autun. Mais dans cette année 90 et presque, je dirais, jusqu'en 91, la France est relativement satisfaite des progrès réels et indiscutables qui ont été accomplis et on se demande jusqu'à quel point on ne va pas justement vers cette monarchie où Louis XVI n'est plus roi de France, mais serait en quelque sorte avant Louis-Philippe roi des Français et où la monarchie s'estime en quelque sorte ravie d'avoir retrouvé son bon peuple.
Et puis, peu à peu, le bras de fer va devenir terrible entre le roi et l'Assemblée. Il y a la question religieuse qu'il ne faut pas oublier du tout. Et tout ça va aboutir à une radicalisation de la Révolution, à une chute du régime. Et l'on peut dire que dans toutes ces étapes-là, il y a un homme qui a joué un rôle absolument décisif. C'est précisément notre Danton.
Sur Europe 1 de la symphonie en ré mineur de Rigel pour accueillir votre nouvel invité, Franck.
Et oui, qui est donc l'auteur de cette biographie Danton, le géant de la Révolution chez Albin Michel. Bonjour David Laudet, merci d'être avec nous. Alors vous avez écrit un très beau livre plein de force et d'éclat à la mesure tout à fait du personnage que vous évoquez. Et l'on y voit un Danton dont les débuts politiques sont beaucoup moins évidents qu'il n'y paraît. En fait, il entre... J'allais dire timidement non, mais il entre par la petite porte dans la carrière politique, cet avocat, David Laudet.
Bonjour Franck, bonjour Philippe. Danton n'est pas un révolutionnaire né.
C'est ça.
C'est un pur produit, c'est un fils de la France profonde, on dirait aujourd'hui. Il est touché par l'époque, très touché par l'époque. Il voit la fin de l'ancien régime, il voit la banqueroute de la France, car la royauté, la monarchie, c'était la banqueroute. C'était
une crise financière énorme.
Plutôt à cause de la cette guerre aux États-Unis, la guerre contre les Anglais, l'indépendance des États-Unis, où la France a mis énormément d'argent. Et puis l'aboutissement de la des Lumières. Alors ça, il voit tout ça et il se dit, pour se joindre, pour se lancer dans la Révolution, il se dit, je vois passer devant moi une immense vague et j'ai sauté dessus.
Il y a de l'opportunisme, évidemment, chez ce personnage, un opportunisme important, tout à fait évident d'ailleurs. Alors, il participe, c'est ce qu'il faut mettre en avant, ce sont les clubs, Philippe. Hein, c'est-à-dire que sans les clubs, il n'y aurait pas de Danton.
Pas de révolution sans club.
Et
il est évidemment ce tribun extraordinaire. Il fait partie de la section des Cordeliers et il va être un des piliers du club des Jacobins, où il aura d'ailleurs comme autre collègue, toujours dans cet endroit, tous ses amis, à commencer bien évidemment par Robespierre. Camille Desmoulins va haranguer le peuple au moment des débuts de la Révolution française au Palais Royal en arrachant une feuille des arbres qui est verte. Alors on va s'apercevoir, ah mon Dieu, c'est la couleur des livrées du comte d'Artois. Donc on va vite changer et arriver justement aux couleurs de Paris, le bleu et le rouge, à qui on ajoutera bien sûr le blanc. Il s'agit de parler, il s'agit de se faire entendre. Il n'y a pas Internet. On n'est pas comme aujourd'hui dans certaines révolutions où Internet a été à ce point essentiel. Il faut parler, c'est la parole qui libère.
Et cette parole tout à fait magnifique des tribuns de la Révolution, parce que Dieu sait qu'il manie un français extraordinaire, cette parole, elle prend dans la voix, j'allais dire dans la gorge de Danton, une force particulière. Il faut peut-être dire un mot de son physique. Hein. C'est un véritable taureau, cet
comme
homme-là.
Comme on le verra d'ailleurs dans le livre de David, c'est un colosse.
C'est ça.
L'appelle le Mirabeau des Ruisseaux, je crois. Vous le direz certainement mieux que moi. Il a été défiguré lorsqu'il a un an par un sabot,
oui.
Alors qu'on est en train de l'allaiter. Comme il est très fort, quelques années plus tard, il se bat cette fois-ci avec une vache, et évidemment, ou un taureau, c'est le taureau, je crois, évidemment, qui a le dessus, et en plus, il a la petite vérole.
Donc
cette
donc,
espèce de Mirabeau, il est gravelé. Ce Mirabeau des Ruisseaux fascine. Madame Roland, par exemple, le déteste. D'autres, au contraire,
elle
sont subjugués
raison, dire, oui.
par le personnage.
Et il faut dire que sa voix, ce qui le rend, ce qui le distingue, ce Danton, c'est sa voix, finalement.
Voilà, c'est ça.
Il a une voix immense. Hein. C'est comme un roulement de tonnerre. Et c'est évident qu'on entend parler Danton et on entend battre le cœur de la Révolution. Et il utilise cette voix. Cette voix l'aide à donc, mener ce club des Cordeliers. Qui est un club de la rive gauche. Il y a des artistes, des écrivains, mais aussi des artisans, des petits gens. C'est un club très populaire et qui est un club d'action, un club excessif, on peut dire aussi.
Agitateur.
Agitateur, oui, absolument agitateur.
Et évidemment,
on pourrait dire c'est le four. Le four de la Révolution.
C'est ça, c'est là que tout s'agite. Alors, à mesure que la monarchie est en difficulté, monarchie constitutionnelle bien éteinte, hein, il faut bien le dire, ce club va prendre de l'importance et sa voix, Danton plus encore. Et à partir du moment où chute la monarchie, au 10 août, Danton devient l'homme de la situation, car il ne faut pas oublier qu'autour, aux frontières, évidemment, toute l'Europe coalisée est en train de se liguer hein, contre ce qui va bientôt devenir, dans quelques semaines, la nouvelle République française. Et là, il y a la célèbre allocution, bien entendu. Elle n'avait pas été préparée, écrivez-vous dans votre ouvrage, David. C'était une intervention dans un débat sur la politique de guerre, aussi spontanée que toutes celles qu'il avait faites, mais ce jour-là, il était vraiment d'une humeur de taureau de combat. Il semblait en quelque sorte convaincu que le pays n'était capable de se sauver que lorsque son âme était exaltée. Il lui fallait du sang, de la sueur et des larmes. Tout s'émeut, tout s'ébranle, tout brûle de combattre, gronda-t-il d'une voix forte. Le peuple avait une mission sublime, puis incapable de réfréner ses ardeurs, nous demandons que quiconque refusera de servir de sa personne ou de remettre à la patrie ses armes sera puni de mort, crie-t-il. L'apogée était encore à venir. Tout sous des applaudissements retentissants, il conclut, la main gauche plantée sur sa hanche, la droite cisaillant l'air avec une terrible vigueur. Le tocsin qu'on va sonner n'est point un signal d'alarme, c'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, messieurs, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. Cette phrase, évidemment, c'est celle qu'on retient. Il y a comme ça, surtout sur une vie très courte comme celle de Danton, oui, il y a
magnifique.
Des phrases qui marquent.
Je crois qu'on a, on a le droit de dire que Danton, il a sauvé la Révolution et il a sauvé la patrie. On peut dire qu'ils sont entremêlés, ces deux choses, mais ce n'est pas exactement la même chose. Parce que c'est un homme d'action. Et lui, il voyait que le vrai danger pour la révolution, c'était pas les anti-révolutionnaires qui ont fait tellement peur à Robespierre et à d'autres, mais c'était l'ennemi à l'extérieur, les envahisseurs. Ils étaient déjà en France. Et
disons que Danton étant sans doute moins idéologue que d'autres, mais ayant une fibre patriotique incontestable, a un sens de l'État et des priorités que n'ont pas un certain nombre des autres révolutionnaires. Alors à partir de là, quelles ont été ses vraies responsabilités? A-t-il ou non eu des liens très proches avec la cour? Est-ce qu'il a touché de l'argent? Comment? Combien? Nous allons venir sur toutes ces questions. Nous allons venir évidemment sur cet homme quand il était au pouvoir, sur les abus qu'il a pu commettre, sur les erreurs également. Nous allons venir à son procès, nous allons raconter tout ça. Avant, si vous le permettez, le temps d'un court récit, j'aimerais vous parler tout simplement de ses amours.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck consacré maintenant aux amours de Danton.
Alors si vous voulez, on remonte un tout petit peu en arrière. Nous sommes 2 ans avant la Révolution, aux premières chaleurs de l'été 1787. Georges-Jacques Danton a été reçu 7 ans plus tôt au barreau de Reims, nous l'avons dit. Et pour le moment, il est avocat, mais un avocat bien modeste. Un avocat qui n'a pas tellement de causes à plaider. Il a pris l'habitude de venir s'asseoir tous les soirs au Café du Parnasse. Le Café du Parnasse, c'est un estaminet qui se trouve quai de l'École. C'est l'actuel quai du Louvre. Et sans cesse, son regard se porte sur la fille de M. Charpentier, l'honnête maître des lieux, le tavernier si vous voulez. Elle s'appelle Gabrielle. Gabrielle Charpentier, aussi une très belle brune de 25 ans. Elle est toute fraîche, gracieuse, toujours de belle humeur. Vous savez, ces jeunes filles qui sont éclatantes tout simplement, mais avec une réputation néanmoins de vertu, de grande honnêteté qui, semble-t-il, tient à distance les éventuels soupirants. Oui, il en aurait fallu davantage pour intimider Georges-Jacques, notre avocat si plein d'assurance. Avec tout ce que nous venons de dire, vous avez compris que ça n'est pas la pudeur d'une jeune fille qui peut l'arrêter. Ah, il n'est pas beau, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il est, on l'a dit, hein, franchement laid avec son large cou, sa lèvre tout abîmée par le fameux accident, son visage marqué de petites véroles qui fait penser tout ça à un mufle de taureau. Mais il a la parole facile, il a beaucoup de prestance et puis il a ce beau titre d'avocat. Vous doutez bien que le père de Gabriel se renseigne, bien entendu, et qu'il découvre que ce Georges-Jacques, effectivement, est né d'une famille quand même bourgeoise, petite bourgeoisie, mais tout de même établie à Arcy-sur-Aube. Alors, il a beaucoup parlé de son enfance heureuse, hein, de ses nombreux frères et sœurs, parce qu'il a la parole facile, il parle tout le temps dans l'estaminet Danton. Et il parle de ses sœurs, bien sûr, et surtout de sa mère qui lui a donné une bonne instruction, ce qui lui a permis de devenir avocat. L'avenir est devant lui, disons-le. Et puis il a ce titre, hein, à l'époque ça compte, il est avocat auprès du Conseil d'État, c'est marquant. Et M. Charpentier s'imagine déjà marier sa fille à quelqu'un d'établi en quelque sorte. Et comme lui par ailleurs est plein de vivacité, de force et de bonne humeur, il la fait rire, Gabrielle, eh bien elle se laisse convaincre évidemment. Et bientôt, on va célébrer les noces, on va marier cette fille de cabaretier avec cet avocat dont on ne pouvait pas imaginer qu'il allait devenir avocat au Conseil d'État. Parce que je vous dis avocat au Conseil d'État, pour l'instant, il est simplement avocat. C'est grâce à la dot du beau papa qui va devenir avocat au Conseil d'État et qu'on va avoir cette fameuse ordonnance, hein, signée de Louis XVI. C'est assez amusant d'ailleurs. Louis XVI, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, fait savoir, faisons... par la pleine et entière confiance que nous avons à la personne de notre cher et bien-aimé sieur Georges-Jacques Danton, et en ses sens, suffisance, loyauté et prud'hommerie, capacité, expérience, fidélité et affection, lui donnons et octroyons l'office d'avocat en nos conseils. Notre cher et bien-aimé Georges-Jacques, qui, c'est le même qui, évidemment, au tournant de l'année 1793, hurlera à la tribune « On ne compose pas avec les tyrans, on ne les frappe qu'à la tête, je vote la mort du tyran. » Mais vous savez, les périodes de révolution ont de ces raccourcis historiques. Alors, grâce donc à l'argent de Beaupapa, notre avocat est devenu avocat auprès du Conseil d'État. Et puis, petit à petit, il va gravir les échelons. De quelle façon et quels échelons, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais vous imaginez bien que pour Gabrielle, c'est tout à fait extraordinaire ce qui est en train de se passer. Elle va bientôt se retrouver femme de ministre. Cette dame, elle habite à la Chancellerie, place Vendôme, vous imaginez. Comme l'a dit mon cher Gosselin Lenôtre, évidemment, cette vertigineuse fortune va faire son malheur, parce qu'en vérité, c'est ce qui va tuer le bonheur du ménage. Danton, vous l'avez compris, est un voluptueux, et Gabriel a beau lui avoir donné deux petits garçons, évidemment, il passe son temps à courir les filles et les jupons partout, et en permanence, la pauvre femme ne sera pas heureuse en ménage, et il va falloir pour que Danton se rende compte de l'amour qu'il vouait à Gabriel, qu'on lui apprenne, alors qu'il est lui-même en Flandre, qu'on lui apprenne la mort de son épouse. Et alors là, vous allez voir, d'un seul coup, il aura une réaction assez extraordinaire.
Sur Europe 1, extrait de la BO de Danton, le film d'André Vajda Franck.
Danton, apprenant la mort de sa femme, est donc rentré à Paris. Alors, il a ce côté impulsif, il a ce côté démesuré dans les réactions, bien entendu, qui vont d'ailleurs faire sa célébrité. Et je cite l'ouvrage de David Laudet, Danton, le géant de la Révolution. « Oui, écrit David Laudet, il lui fallait voir Gabrielle une fois encore. » Elle est morte, évidemment, et non seulement elle est morte, mais elle est enterrée. « Il lui fallait la garder près de lui. À travers les larmes, une solution s'esquissa. Il ferait faire un double d'elle. » Un buste qu'il pourrait toujours embrasser et dont il pourrait implorer le pardon. Le soir suivant, il se précipita chez un sculpteur qu'il connaissait, dont l'atelier se trouvait dans le district Saint-Marcel. L'artiste secoua la tête. Madame Danton était morte depuis une semaine, rappela-t-il à son visiteur désespéré, et inhumée depuis 3 jours. Il fallait un moule pour faire un buste, et comment le prendre une fois la personne sous terre ? Danton le supplia, lui fourrant dans la main une liasse d'assignat, c'est le nouveau papier monnaie de l'époque. Le sculpteur ne fut peut-être pas sensible à cette monnaie en laquelle peu de Parisiens croyaient, mais la profondeur insondable de l'angoisse sur le visage spectral de son visiteur le fit céder. Ensemble, Danton en redingote sombre et le sculpteur armé de ses outils se ruèrent le soir même au cimetière et frappèrent à la grille pour appeler le gardien. Une pluie froide de février lustrait les allées de granit entre les pierres tombales. Le gardien arriva et leur fit signe de partir, mais il s'accomplit quand il reconnut le visage bouleversé du champion du peuple, l'homme qui, selon les gazettes, dirigeait la révolution. Dans l'obscurité, ils étaient seuls tous les trois et à la lumière d'une torche, ils trouvèrent la tombe de Gabriel. Le cercueil n'était recouvert que d'un pied de terre meuble, nous dit David Laudet, car les marbriers n'avaient pas encore commencé leur travail. « Une bêche !» exigea Danton. Le gardien résista, il n'avait laissé entrer le gigantesque homme d'État que pour jeter un regard à la tombe. « Une bêche !» rugit Danton. En quelques minutes, ils furent au travail, à déterrer le cercueil. À trois, ils le transportèrent au sec dans une cabane à outils du cimetière. Sur l'insistance de Danton, le gardien alla chercher des ciseaux pour forcer soigneusement le couvercle, tâche qui prit une demi-heure. Et lorsque le couvercle se leva et que la tête cireuse de Gabriel apparut à la lumière vacillante de la torche, Danton poussa un autre cri terrible. De ses mains immenses, il fouilla sous le cadavre et retira son épouse, l'implorant de lui pardonner, la serrant contre lui et baisant ses lèvres exsangues, grises et pincées. Danton ne va pas rester très longtemps dans ses dispositions d'esprit morbide, puisque assez vite, une amie du couple, la jeune Louise, j'aime bien voir vos réactions, Julia, parce que évidemment, c'est un peu choquant, mais c'est comme ça, elle va venir s'occuper des enfants, la petite Louise Gély, vous savez, et puis, elle aussi est gentille, elle est fraîche, son père est lui-même membre du club des cordeliers, tout ça va faire que, évidemment, elle deviendra bientôt la deuxième épouse l'épouse de Danton, et c'est elle qui sera là au moment du procès et au moment de l'exécution du géant de la Révolution. Elle en gardera évidemment des souvenirs épouvantables. On la voit fuir jusqu'à chez ses beaux-parents, Arcis-sur-Aube. Et puis un jour, elle va, elle aussi, cette toute jeune veuve qui n'aura finalement été mariée qu'un an avec Danton, à peine un an même, elle va finalement réépouser quelqu'un d'autre. Alors quand je dis quelqu'un d'autre, c'est assez extraordinaire, puisque cette Louise qui avait épousé d'abord un personnage historique va être courtisée par Claude-Étienne Dupin, un homme, un honnête homme, disons, qui va connaître par la suite une belle carrière. Il sera préfet, baron d'Empire, conseiller maître à la Cour des Comptes. Elle devient donc, elle, la baronne Dupin, et ayant laissé les enfants de Danton à ses premiers beaux-parents, elle donnera elle-même deux enfants au baron Dupin. Les souvenirs de l'année 1794 finiront bien sûr par s'estomper, et l'on dit que chez les Dupin, jusqu'en 1856, car Louise vivra jusqu'en 1856, il était tout simplement interdit de prononcer le nom de Danton ou de parler de révolution.
Dupin. Au cœur de l'histoire. Je vous rappelle que nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à l'homme de l'audace, de toutes les audaces. Il s'agit de Danton, Franck.
Vous avez bien fait, Julia, de rappeler à nos auditeurs qu'ils pouvaient réagir, car ils l'ont fait. Ils sont nombreux, alors je ne pourrais pas tout citer. Mais ce qui était certain, c'est que tous les messages, pour l'instant, sont très négatifs, je dois le dire, contre Danton. Alors, c'est Hugues qui nous demande s'il a bien dit « La révolution n'a pas besoin des sciences » à propos de ce pauvre Lavoisier qu'on avait condamné à mort. Vous confirmez ça?
Non. Je confirme pas ça. Mais il s'agit du régicide, parce que il y a des idées, pour moi, des idées reçues inexactes sur Danton. On peut commencer avec le soi-disant, il est régicide, oui, mais
il vote la mort du tyran, dit-il à la tribune.
Mais il était pour que la monarchie continue à exister, mais sous une autre forme.
Oui.
La forme, donc, monarchie constitutionnelle, comme on a en Angleterre. Mais le roi, une fois qu'il a pris la fuite, il a trahi, évidemment, il a trahi, il a pris la fuite pour rejoindre l'ennemi, la France, l'ennemi qui envahit.
La fameuse fuite à Varennes.
Hein, oui. Et qui veut défaire, non seulement défaire la Révolution, mais défaire tout ce qui s'était passé. Il a pris, c'était un traître. Le roi était donc un traître
aux yeux
pour
de Danton,
oui. Pour Danton et pour, je pense que la plupart des révolutionnaires, parce qu'il a pris le côté des ennemis de la patrie. Puis c'est l'histoire de sa corruption qui est très étendue.
Mais on va y venir, ça, si vous voulez, sur la corruption, parce que c'est un des sujets majeurs, et on va parler du procès, de tout ce qui a pu lui être reproché, bien entendu, par l'accusateur public, par Fouquier-Tinville. N'oublions pas que le tribunal révolutionnaire, devant lequel il a fini par passer, il en était quand même l'un des responsables majeurs. Hein, il avait contribué largement à le créer, ce tribunal. Patrick nous dit, ce Danton n'était-il pas un manipulateur qui coûta très cher à la France? Et Jeanne ajoute, il a du sang sur les mains, je doute que cet homme-là ait sauvé la France. Vous voyez que une partie en tout cas de nos auditeurs ne sont pas tendres avec Danton. Quand vous dites qu'il a sauvé la France, que vous avez dit, vous, David Laudet, vous dites qu'il a sauvé la Révolution précisément. Hein. C'est-à-dire que ce régime qui était dans une situation très alarmante, avec des invasions partout aux frontières, c'est lui qui l'a tenu et qui l'a porté à bout de bras au moment le plus périlleux.
J'ai dit, sauver la France, qu'est-ce que c'est la France pour lui?
Sauver la France nouvelle,
c'est la patrie,
disons.
Oui, voilà. C'est la nouvelle France et c'est la patrie qui est éternelle. Et comment il a sauvé la France? Bon, il y avait l'action, cet homme d'action, mais surtout il a inventé, si vous voulez, la guerre totale, la levée en masse. Il y a aucun autre pays de l'Europe qui avait fait une telle mesure où tout le monde était obligé de prendre des armes contre l'ennemi. Ils l'ont fait. Il y avait énormément de conscrits, de recrues, et l'ennemi était donc battu un peu d'une manière un peu de chance, un peu chanceux,
oui.
Parce que c'était
à Valmy. C'est étonnant, mais ça nous entraîne très loin.
Mais c'est Danton qui a qui a fait ce mouvement national pour battre l'ennemi. C'est pour cela que je dis qu'il a sauvé la France. Si vous voulez, il a sauvé la patrie éternelle.
Alors, on a bien montré au début de cette émission, Philippe Séguy, que Danton a une double historiographie, en quelque sorte. Il y a les partisans invétérés et les contenteurs acharnés. En vérité, et je pense que David Laudet le montre assez bien, la vérité est sans doute entre les deux. C'est un homme qui, en tout
cas,
a su mener et a su mener sa carrière politique. Il faudrait dire quand même qu'il a exercé des responsabilités.
Il a été deux fois ministre. Ah oui. Il est ministre de l'Intérieur, il est ministre de la Guerre. C'est un homme qui va siéger à la Convention. Moi, j'y vais d'abord un formidable opportuniste. Il ne faut quand même pas oublier qu'au début, on l'a d'ailleurs signalé en début d'émission, au début de la Révolution française, c'est un tout petit avocaillon qui n'a même pas encore fini de payer sa charge. Alors je sais bien que notre ami David a pour lui une vraie fascination, mais n'oublions pas quand même qu'on le sait de sources sûres. Je renverrai par exemple aux travaux d'un François Furet ou d'une Mona Ozouf. On sait que la cour, et certainement d'ailleurs l'entourage du duc d'Orléans, ont donné de l'argent à Danton. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'il va acheter des biens nationaux dans sa belle Champagne, même si vous dites justement, cher David, que ce n'est pas très important, mais c'est fait quand même. C'est grâce aussi à cet argent qu'il va certainement rembourser les emprunts. On parlait tout à l'heure de qui lui avait acheté justement cette charge, qui lui avait prêté de l'argent. Il y a une partie de sa famille, certes. L'argent remboursé vient d'une façon réelle et historique de ce qu'il perçoit. Pourquoi ? Là, le mystère est réel.
Et qui paye, pour quelle raison? Mais voilà. vous mettez en cause ces paiements et cette corruption, David Laudet.
Parce que pour rembourser, par exemple,
sa charge d'avocat au conseil, oui.
c'est pas beaucoup d'argent.
C'est 50 000 livres quand même. Enfin, c'est pas des sommes vertigineuses, mais c'est une grosse somme.
Oui. Mais ça vient. Pour beaucoup de son office, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, du père de Gabriel.
Pour 20 000 livres, oui.
Oui. C'est un peu, on peut pas être très précis là-dessus. Mais là où on peut être un peu plus précis, c'est que regardons la fortune de Danton. S'il avait pris de l'argent un peu partout. On l'aurait vu. On ne peut pas tout cacher. Là, il vivait assez modestement à Paris.
Bourgeoisement, disons.
Bourgeoisement. À Paris, un appartement d'un étage, rive gauche, un immeuble normal. Ce qu'il aimait le plus dans sa vie, c'était sa maison en Champagne. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la Révolution? S'il était un homme riche, il aurait peut-être acheté d'autres. Mais non, il a acheté deux ou trois champs. C'était un moment où on pouvait acheter pour pratiquement rien. Les moines avaient été divestis, donc leurs terres, on pouvait prendre ça. Donc, manipulateur, il n'y a pas de preuves.
Oui. Disons qu'en tout cas, il n'y a pas de preuves écrites, mais il y a un certain nombre d'indices. Enfin, le personnage, on va y venir, le personnage a laissé...
Ajoutons que d'où ça vient, les accusations contre Danton.
Oui.
Je ne veux pas être...
J'admire le défenseur,
Danton pour ce qu'il a fait, je ne veux pas être apologiste de Danton. Mais d'où ça vient, les accusations? Ça vient des ennemis politiques, ça vient des rivaux. Ça vient de, finalement, Robespierre et de Saint-Just. Je pense que c'est important de noter.
J'aime beaucoup quand nos amis britanniques se penchent sur l'histoire de France. Ça donne à tout ça un air de sagesse et peut-être une forme d'hommage aussi.
Je n'ai pas eu d'autre ambition que le bonheur de la nation et pas d'autre cupidité que de paix et de liberté. Louis Capet m'aurait-il payé pour l'avoir fait guillotiner, et Mirabeau et Dumouriez? La vraie révolution française, malgré les fous du comité, c'est ma révolution française et c'est moi qui l'ai inventée.
Citoyen, quel est ton nom?
Citoyen, quel est ton nom?
Danton. Sardou sur Europe 1. C'est votre
père que l'on... Un nombre d'extraits des réponses que Danton fait à ses accusateurs au cours de son procès dans cette chanson chantée par Michel Sardou. Alors, vous vouliez rectifier un certain nombre d'idées fausses, David Laudet. Il y en a une qui est importante, c'est cette idée d'un débauché total, parce que c'est l'image qu'une certaine historiographie, et notamment Mathiès du reste, a voulu développer. C'est-à-dire que c'était un homme jouisseur, totalement pris par ses sens, et qui ne pensait qu'à courir après les filles, en fait. Vous dites que ce n'est pas ça la vérité?
Oui, alors qu'il soit en termes dévoreur de jolies femmes. Je ne suis pas d'accord non plus là-dessus. Il a dit, et on répète cette phrase, je ne peux pas vivre sans les femmes. Moi, je pense que c'est assez normal. C'est mon cas aussi. D'ailleurs, vivre sans les femmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se marie, sa femme, il aime.
Avant, il y a eu sa mère et ses sœurs, hein, faut pas oublier. Il a toujours été dans ce monde-là, ouais. Dans ce bain féminin.
Ce qu'il veut avant tout, pendant la Révolution, c'est une vie bourgeoise. Derrière lui, c'est-à-dire une femme qui s'occupe des enfants et la femme qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la maison, de sa maison. Il avait une bonne là aussi. Ça, c'est une sorte d'idée bourgeoise pour moi. Il est vrai, et certainement, il a pu pas mal, mais étant homme d'action, il n'avait pas beaucoup de temps pendant la Révolution. Il disait j'ajoute que Robespierre l'accuse d'être immoral et lui il dit...
On ne peut pas dire que Robespierre ait tellement de leçons à donner sur ce chapitre.
La morale, Robespierre a dit à Robespierre, la morale, c'est ce que je pratique dans mon lit chaque nuit avec ma femme.
Et d'ailleurs, on l'accuse pendant le procès, parce qu'il faut qu'on y vienne à ce procès, on l'accuse d'audace. Il dit « l'audace individuelle est sans doute réprimable et jamais elle ne put m'être reprochée, mais l'audace nationale, dont j'ai tant de fois donné l'exemple, dont j'ai servi la chose publique, ce genre d'audace est permis. » C'est-à-dire qu'il distingue toujours l'action privée et l'action publique, évidemment, ce Danton. Alors, il y a quand même cette période où il va s'absenter de Paris. Il repart à Arcy, il va vivre, alors là, comme un gentleman farmer avec sa nouvelle épouse, et ça va lui coûter la vie, quelque part.
Il y a aussi, peut-être pour légitimer ce désir de partance, quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est le caractère de Danton, pour ne pas dire de quoi il souffre. C'est-à-dire, plusieurs historiens justement ont dit qu'il avait certainement quelque chose qui s'apparente, je dirais, à une dépression, et qui le force à quitter Paris, à respirer, je dirais, le bonheur de sa Champagne natale. Et il est fou amoureux de cette jeune fille de 16 ans. Il s'est écoulé 4 mois,
oui, voilà.
Évidemment, 4 mois simplement, entre la mort de sa femme et son remariage avec cette jeune fille. Donc même si c'est un miracle de vertu, il a quand même passablement regardé les formes calipiges de la jeune fille. Bref, donc il va en effet quitter Paris et
saluer... Les formes calipiges, pour nos plus jeunes auditeurs, ce sont les jolies fesses. Hein, c'est ça.
Absolument, les jolies fesses. Merci Julia. Donc il va en effet quitter Paris et on est évidemment au cœur, au noyau dur de la Révolution française. Et Robespierre lui reproche en quelque sorte de quitter le bateau, de fuir ses responsabilités. Et on le traite, et le mot sera d'ailleurs cité par Saint-Just dans son procès, on va y venir, on le traite de méchant, méchant homme. C'est-à-dire qu'il y a, comme le disait Diderot en le reprochant à Rousseau, il n'y a que le méchant qui soit seul, alors que le rôle d'un ministre, le rôle d'un député, c'est d'être au milieu des Français.
On a essayé de le réconcilier avec Robespierre à la fin. Il y a ce dîner qui est organisé dans l'Est de Paris pour essayer de faire en sorte... Et puis finalement, alors lui... Et il va avec toute la bonhomie du monde et toute sa jovialité habituelle. Et en face, il y a un Robespierre absolument froid,
absolument
impassible.
Oui, c'est la différence entre ces hommes. C'est qu'il y a un qui est un monstre chaud, prêt de compassion, qui est prêt à... qui veut le compromis.
Donc Danton.
Et l'autre, un monstre froid. Juste pour retourner à son retour chez lui en province tout le temps. Je dis au début du livre, c'est un attachement qui lui coûtera très cher. Pourquoi? Parce qu'il quitte la Révolution à un moment très brûlant. les choses se passent derrière lui. Et lui, il ne participe pas dans les choses-là. Il perd son pouvoir. Pourquoi ? Ça, c'est l'ambiguïté. C'est un homme qui est tellement attaché à son chez-lui. C'est pour ça que je dis c'est un fils, c'est
plaisir,
un fils
oui.
de la France profonde. Il a cet amour pour son pays.
Pour
et
sa
il
champagne.
Pas, et il champagne. Et qui n'arrive pas à arrêter.
Eh oui, et ça, ça va être évidemment...
Ouvert aussi.
On ne s'absente pas du pouvoir lorsqu'on est soi-même très impliqué. À un moment, j'allais dire chaud, c'est même plus chaud, là, on est
c'est
en pleine terreur.
C'est plus que brûlant, et je pense qu'il a peur, il ne faut pas nier cela, c'est de la peur, il a peur de la mort.
S'il était vrai, on l'accusait de Cromwell, d'être un tyran,
etc. Il n'aurait jamais quitté Paris. Il n'aurait jamais quitté Paris.
Un dictateur, évidemment, s'il avait l'esprit de dictateur, il n'aurait jamais fait ça.
Et ce qui est certain, c'est qu'évidemment, il va être condamné. Alors là, le procès est un procès inique, comme il y en a eu tellement devant ce tribunal révolutionnaire. Il ne peut pas s'exprimer. Plutôt, il peut s'exprimer, mais ça se heurte véritablement à un mur hein, en face de lui. On n'écoute pas du tout ce qu'il a à dire. Si brillant que soit sa défense, parce que le moins qu'on puisse dire est qu'il se défend ardemment. Et avec ses partisans, ils sont donc guillotinés. Et là, ça va être le début de la grande terreur. Hein. Là, on arrive dans la période la pire de la Révolution française, qui durera jusqu'à ce qu'on appelle Thermidor, c'est-à-dire la chute de Robespierre à son tour. On a l'impression que tous ces hommes, vus d'un peu loin, passent leur temps à se couper la tête, à s'envoyer à la guillotine l'un après l'autre, hein, s'entretuer. Quelque chose de...
Tout le monde avait peur de tout le monde.
Oui, c'est ça, c'est assez terrible. Merci beaucoup, David Laudet, d'être venu nous parler de Danton, le géant de la Révolution. C'est votre ouvrage chez Albin Michel, un livre que vous avez écrit en anglais et qui a été très bien traduit d'ailleurs par... Jean-François Sonnet, voilà, pardon, Jean-François Sonnet qui a traduit votre ouvrage. Et puis, merci à vous, Philippe, d'être venu. Alors, sur cette période révolutionnaire, on peut lire votre ouvrage et Embrasser la liberté sur la bouche, qui est un récit très, très, très enlevé de la vie de Théroigne de Méricourt. Et puis, vous êtes en train de préparer, là, en ce moment, un ouvrage qui va s'appeler Stanislas ou un caprice de Joséphine. Ça va bientôt sortir, je crois.
Ça sort en février prochain chez Flammarion. Merci de le citer, cher Franck Ferrand.
Vous viendrez nous en parler
très volontiers.
De Joséphine. Alors, évidemment, sur une émission comme celle-là, on ne peut pas donner d'avis tranché et définitif. Je pense qu'on a compris que notre ami David Laudet était globalement très favorable à Danton, tout en reconnaissant les faiblesses de cet homme, tout en reconnaissant ses erreurs politiques, ses faux pas, ses abus, évidemment. Mais vous nous dites il était bien inspiré et globalement, il ne faut pas oublier qu'il a sauvé ce qui pouvait l'être de la Révolution à un moment où le pays était en très grand danger. Votre avis à vous, Philippe, est un peu plus ambigu. J'aimerais bien que vous vous prononciez quand même sur l'homme. Alors, je ne vous demande pas de dire l'acquittement ou la mort, mais tout de même, que pensez-vous de ce Danton ?
Moi, je pense que c'est un formidable individu, plein de contradictions. Je crois que c'est un homme de courage, il l'a montré. C'est un homme de conviction à sa manière. Je pense que ce n'est pas un homme d'imposture. Je dirais que c'est un homme de plus, peut-être davantage d'ambition que de courage réel. On abordait très vite le moment où il quitte Paris. Moi, j'y vois quand même une des raisons de peur et d'angoisse réelle. Il veut sauver sa peau parce qu'il sait très bien que sa tête est menacée. Il n'est pas fou. On parle de son courage. Qu'a-t-il fait pour les Girondins ? Pour les Girondins, pas grand-chose.
Mais il a été très choqué de la.
Oui, il pleure. Il pleure à ce moment-là. Mais est-ce qu'il a réellement pris le parti de ses ennemis ? Pas vraiment. Que fait-il avec Fabre de Blantine, avec Desmoulins ? Enfin, voilà.
Merci Philippe de
Merci
nous
à vous.
Quand même
Merci
donné un point de vue personnel. Merci beaucoup Merci d'avoir parlé de Danton, le géant de la Révolution de David Laudet, c'est chez Albin Michel.